Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sophia Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rose-même.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Saviel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que les. On puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher aussi vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.
À vous qui êtes à l'écoute de cette nouvelle émission de la Commission diocésaine Justice et paix, bonjour. Dominique Mugerin avec vous. Aujourd'hui, nous allons dans la commune de Sainte-Anne. Il y a quelques jours, l'association Liens de Panier, présidée par Madame Camille Mugerin, avait organisé, comme chaque année, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une conférence débat, une table ronde qui avait pour thème « La femme, apôtre de la paix et de la non-violence, mythe ou réalité ». Plusieurs intervenants que vous allez découvrir au fur et à mesure, ont pris place et ont répondu aux questions de l'Assemblée. Les modérateurs étaient Mme Marie-Hélène Lomuneau et M. Gabriel Mugerin. D'ailleurs, nous écoutons M. Gabriel Mugerin qui nous accueille.
Bonjour, merci de donner un écho médiatique à cette manifestation organisée par Liens de Panier. Je salue aussi votre travail sur le terrain pour faire participer ceux qui ne peuvent pas venir et donner un écho à ce qui se fait sur le terrain. Merci. Cette notion de violence, on en parle, elle est souvent dénoncée, critiquée, et aujourd'hui on essaie de l'analyser aux axes de travail de l'association Liens de Panier, qui travaille toujours autour de la journée des droits de la femme. Aujourd'hui on aborde la question de la violence liée au féminisme, et on se pose la question, est-ce que la violence c'est seulement subie par la femme, ou est-ce qu'elle peut être aussi actrice de cette violence? Et donc, est-ce que, en fait, son essence, c'est d'être douce, tout ça, pacifique, c'est l'image qu'on lui donne? Est-ce qu'il y a des exemples historiques qui confirment ça ou qui infirment ça? Est-ce que la femme, c'est une actrice, une citoyenne, j'allais dire de manière raccourcie, un homme comme les autres? Voilà.
Oui. Ici, en Guadeloupe, dans notre mentalité, nous avons toujours parlé de femme potomitan. À ce moment-là, elle ne se sent pas peut-être beaucoup plus forte et qu'elle doit aussi dominer. Non,
c'est-à-dire, en fait, il y a plein de paramètres différents. Et cette notion de violence, elle est souvent mise au fait d'une domination pour imposer sa volonté, pour imposer des limites aux autres alors qu'on se sent soi-même tout puissant. Donc c'est souvent posé dans un rapport de dominant-dominé. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une harmonie, c'est un équilibre à trouver. Et il faut, à travers les rôles que l'histoire a donné à chacun, remettre en cause des situations de part et d'autre pour arriver à une société apaisée, équilibrée. La réflexion autour des places respectives de chacun doit emmener à questionner la responsabilité qu'on a tous. En fait, c'est comme ça que je vois cette réflexion qui est organisée autour de la notion de féminisme et violence.
Est-ce un mythe, est une réalité, apôtre de la non-violence? Aujourd'hui, est-ce que les choses peuvent être différentes qu'autrefois? Est-ce qu'on va s'en sortir? La violence, elle a toujours existé, mais est-ce qu'elle peut perdre d'intensité?
Tu as parlé de femme brutomitant, en notion avec cette image, cette place de la femme dans nos sociétés et dans nos représentations. En fait, il y a une violence que nous exerçons des fois au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, notre seuil à la tolérance de la violence a changé. Mais la violence existe toujours. Notre seuil de tolérance évolue. Ce qui fait que certaines situations qui étaient tolérées, comme les fessées aux enfants, sont questionnées aujourd'hui. Même dans le rapport de la police qui représente la violence légitime, la violence d'État, qui est questionnée dans sa façon de l'exercer. Donc en fait, c'est notre tolérance aussi qui évolue parce que nous prenons conscience que nous sommes interdépendants et que celui qui exerce la violence comme ça de manière décomplexée finit par la subir aussi. Et quand on parle de violence, on ne veut pas cantonner la femme à une place que les hommes ont décidé pour elle. C'est-à-dire, elle serait toujours victime de violence. Il faut regarder les choses de manière ouverte, voir si c'est un acteur politique qui, dans des moments, aussi a eu à utiliser la violence. Et on voit ça dans plein de mouvements où les femmes, quand elles sont sur un barrage, pas baudées, hein.
La violence existe depuis que le monde est monde.
Il y a plein de chansons populaires où la violence que l'homme exerçait sur sa femme était normale. C'est madame à moi, tu vois, on y doit...
A fait ça, vous
oui, on y doit corriger, contimoun, ouais. Et aujourd'hui, cette violence-là est refusée, n'est plus tolérée. En fonction de nos réflexions, notre tolérance à la violence évolue.
Madame Marie-Hélène Lomuno.
Nous allons parler du rôle des femmes dans le climat social. La femme était l'apôtre de la non-violence, mythe ou réalité? Est-ce qu'on peut répondre? Sinon, on tombe dans une réponse manichéenne et le monde ne fonctionne pas comme ça. Souvent, les gens disent « la GPI là-bas formée au cuivre ». Donc, peut-être qu'elle aussi, elle pourrait apporter peut-être une solution ou des solutions à ce climat social qui nous dérange aujourd'hui. Mais on s'attend à ce que les gens fassent des propositions et on s'attend aussi à ce que les différents intervenants nous disent ce qu'eux aussi ils ont déjà entrepris. Puisque ce sont des personnes qui, par leur statut, ont déjà touché à cette question-là. Mon souci, savoir, mais la violence c'est quoi? La non-violence c'est quoi? Est-ce qu'il existe des sociétés non-violentes? Et jusqu'à quand la violence peut-elle être acceptable?
Y a-t-il une limite?
Est-ce qu'il y a une limite? Jusqu'à où l'analyse que nous avons à faire de la violence, est-ce que c'est jusqu'à un degré de violence ou alors lorsqu'elle atteint un autre degré, un degré qui nous dépasse, est-ce que nous avons les outils aussi pour pouvoir analyser tout ça?
Et la question c'est, est-ce qu'elle va se terminer un jour? Parce que le monde a toujours été violent.
Mais de toute façon, la violence fait partie des relations sociales, hein? Absolument, c'est pour ça que je dis, mais il y a peut-être un degré, et c'est peut-être parce que nous avons franchi un degré qu'on se pose la question aujourd'hui. On s'attend à partir avec le cœur léger, avec beaucoup d'espoir, à avoir quelques éléments qui puissent nous permettre de l'appliquer autour de nous.
Parce que ce serait ça le plus important.
Ce serait ça le plus important, parce que moi je dis toujours la révolution, elle se fait pas dans le pays, elle se fait pas dans les associations, elle se fait dans les familles. Peut-être que nous partirons avec des éléments et peut-être que nous prendrons conscience de nos actes en nous disant que peut-être que parfois nous sommes violents mais sans le savoir.
On peut être violent sans le savoir parce que certains actes sont violents et ça rentre tout naturellement dans leur quotidien et on laisse faire et on ne se rend pas compte de ça.
Ne serait-ce que la parole, le fait de s'immiscer dans une affaire alors qu'on n'a pas tous les fils, on n'a pas tous les rouages, tout ça, ça participe de la violence. Ne serait-ce que l'agression verbale, peut-être pas forcément forte, pas forcément juron, mais le fait de poser une question, moi le maquillage par exemple, c'est une violence.
Parce que ça fait du tort, ça fait du mal.
Oui, le mal par l'âge, c'est une violence. Est-ce qu'on s'en rend compte? Voilà. Donc, j'espère qu'on partira avec toutes ces réponses.
Radio Sofaya, la Caraïbe en altitude. Sofaya, altitude.
Madame Nathalie Ninine, psychologue.
Je ne sais pas du tout ce que je vais dire. C'est en fonction de ce qui va émerger. Je pourrais aider un petit peu à la réflexion, à pousser la réflexion. Il y a beaucoup d'archétypes, hein. La pécheresse, la tentatrice, il y a Ève, Lilith, il y a Marie aussi. Il y a différents archétypes. Il y a quand même la question du choix, d'être dans la construction ou la destruction.
Donc la femme a quand même un rôle important dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes.
Oui, c'est au moins la moitié de l'humanité. Elle a sa part, même si effectivement on est dans une société où il y a quand même une domination sexiste, hein, il faut se le dire. Hein. Elle fait partie de cette société-là, elle peut être victime, mais elle peut être aussi actrice dans cette domination. Donc on va voir tout ça.
En fonction de ce que les gens vont dire, vous allez réagir. Mais c'est quelque chose de formidable. Ce qui voudrait dire que vous n'avez pas à préparer des choses à l'avance. En fonction de ce que tout le monde va sortir, vous pourrez, on peut le dire, canaliser les choses.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, le savoir, en fait, ce sont les personnes qui l'ont. Le savoir est immense, hein, mais ce sont les personnes, en fait, qui ont la pensée. Et puis, moi, je suis là pour aider, justement, à faire émerger cette pensée sous-jacente, inconsciente.
Thème comme celui-là, quand même, pour vous, il paraît important?
Ah, il est crucial. On voit beaucoup de violence envers les femmes. Ça interroge aussi, savoir qu'est-ce qui fait peur chez la femme? Puis aussi, des femmes aussi peuvent être aussi très violentes, notamment même avec d'autres femmes, avec des enfants aussi. Donc, c'est-à-dire avec plus faibles. On est dans une période où le sexisme est à l'œuvre, hein, c'est-à-dire où on voit géopolitiquement effectivement des chefs d'État qui sont belliqueux mais aussi sexistes. Les deux sont liés.
C'est grave.
C'est grave, mais ça dit quelque chose justement, du rapport au monde, du rapport à la femme, à tout ça. Il y a quelque chose qui se dit là-dedans.
Nous sommes noyés là-dedans en Guadeloupe, c'est un peu partout comme ça.
C'est un peu partout comme ça, sachant quand même qu'en Guadeloupe aussi, on a une histoire particulière qui a été faite de domination extrême, de perversion extrême. Et où il y a eu des viols de femmes, où la femme notamment esclave a été aussi maltraitée. Elle avait la même charge de besogne, de travail dans la canne, etc., que les hommes. Mais les mêmes punitions aussi, le même niveau. Mais néanmoins, en plus, elles étaient violées. Donc, c'est-à-dire qu'elles subissaient en plus une oppression. Et donc, ça fait des séquelles. Sachant aussi que l'homme aussi a été éjecté hors de la famille. Donc, savoir comment faire lien et construire ensemble, parce qu'effectivement une famille, bon, il vaut mieux qu'il y ait deux pôles un peu opposés ou différents, etc. Différents en tout cas, qui font que ben, le système n'est pas bancal, ça tient sur deux piliers.
La spécialiste que vous êtes, et vous qui analysez toutes ces choses-là, donc vous pouvez dire que jusqu'à aujourd'hui, nous subissons les conséquences de l'esclavage, c'est encore là, la trace est encore là, elle est difficile à s'effacer.
Elle est d'autant plus difficile qu'on n'en parle pas, ou alors qu'on en parle d'une manière qui reste fermée, stérile. Et puis, bon, il y a la difficulté aussi que le peuple agresseur est encore dans le déni.
Il n'a rien fait.
Ou il minimise, ce qui remue le couteau dans la plaie de la victime, tant que ce n'est pas reconnu. Ou c'est reconnu à minima. À minima, ça veut dire que ce n'est pas reconnu. Justice et paix, pas de paix sans justice.
Aujourd'hui, nous espérons que nous allons apprendre beaucoup de choses et nous allons partir quand même avec beaucoup plus de connaissances, mieux comprendre et mieux affronter cette réalité quotidienne. Hein. C'est tout le mal qu'on puisse souhaiter.
Oui, et moi-même aussi, j'espère apprendre aussi des choses.
À tout à l'heure.
D'accord, à tout à l'heure.
Nous écoutons le mot d'accueil de la présidente de l'association Liane Panier, Madame Camille Mucherin.
Merci beaucoup d'être venue. Merci beaucoup d'avoir choisi de nous accompagner ce matin. Nous avons la joie, non seulement de vous avoir, mais d'être accompagnée par la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Donc, elle va nous expliquer en détail tout à l'heure ses fonctions, ses rôles, missions, etc. Nous sommes dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous allons essayer de découvrir qui est la femme, parce que la femme, c'est un mystère. Et comme tout mystère, on a envie de la découvrir, de la dévoiler, de la révéler.
Nous allons écouter les intervenants au fur et à mesure. Nous allons nous contenter pendant cette heure d'émission d'un résumé, car nous ne pourrons jamais tout retransmettre.
Alors, depuis toujours, la femme représente la figure de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, une image mariale. C'est elle qui met au monde, qui donne la vie. Elle est la mère de l'humanité, celle qui protège, rassure, sauve. Dans le fracas du monde qui nous entoure, aucune femme n'est à la tête de ces pays va-t-en-guerre qui portent désespoir et désolation. Bien au contraire, elle est la manœuvre pour faire cesser ces atrocités, refusant de laisser partir ses enfants mourir au combat. Elle porte la voix de la paix, alors que depuis la Genèse, elle est victime, tentatrice. Elle est à l'origine des péchés du monde. Elle est dans notre société victime de violences sexuelles et sexistes qui fait dire que tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de ses compagnons de vie, alors qu'il n'est pas très commun de voir une femme aux assises pour meurtre sous son compagnon. Dans les affaires de la cité, les femmes prétendent ne pas avoir la même sensibilité que les hommes. Une sensibilité féminine, disent-elles, qui fait qu'elle n'apprécie pas de la même manière une problématique. Mais en même temps, la femme donne la mort, même à ses enfants qu'elle a portés et nourris de ses seins. Nous avons des exemples affreux dans les actualités et nous sommes toujours horriblement choqués. Nous posons la question comment, pourquoi, tant cette idée nous semble impossible venant d'une femme. Alors, s'agit-il de cas spectaculaires, effrayants mais exceptionnels, où la femme est-elle par nature moins violente que l'homme? Est-elle la voix de la paix? Quelle est cette dualité qu'elle porte en elle qui fait qu'elle peut être en joue des mots? Je vais vous lire le texte de Madame Joëlle Barthebain. Et elle a demandé à toutes les femmes. Elle leur a dit: mesdames, je vous mets au défi de mettre cela sur votre statut avec une photo de vous-même si vous êtes fières d'être qui vous êtes. Durant plusieurs années, Je n'ai pas supporté cette femme. Je ne l'ai pas assez aimée. Je ne l'ai pas aimée pleinement. Je l'ai nourrie de mensonges et je lui ai dit qu'elle n'était pas assez bien, pas assez belle, pas assez forte, pas assez drôle, pas assez intelligente, pas adéquate, pas à sa place. J'ai permis aussi aux autres de lui dire qu'elle n'était pas assez, voire même carrément trop. J'ai été la meilleure, la première, pour la rabaisser et lui faire entrer dans la tête qu'elle était insuffisante, médiocre, incapable, excessive et déplacée. Je l'ai rabaissée, je l'ai laissée se briser. J'ai permis aux autres de la traiter de manière irrespectueuse. Je l'ai laissée se prendre des claques, se faire démolir, s'excuser d'être gênante, irritante, agaçante, saoulante. Je l'ai observée, navrée, gênée même, se battre pour d'autres qui ne la défendaient même pas. Je n'ai pas pu empêcher les gens de la laisser tomber. Malgré cela, je l'ai vue rester debout et continuer à être une lumière pour le monde en continuant à croire en l'amour. Elle est souvent restée paralysée par la peur, alors qu'elle se battait parfois même contre elle, même dans son esprit, son cœur et son âme. Cette femme s'est trompée plus d'une fois. Elle a des cicatrices parce qu'elle a une histoire. Certaines personnes aiment cette femme, d'autres ne l'aiment pas du tout et il y en a qui ne s'en soucient guère. Elle a fait du bien dans sa vie et du mal aussi. Elle passe des jours sans maquillage, sans s'épiler les jambes, sans se mettre en valeur. Elle s'habille en pyjama très souvent. Elle est parfois un peu idiote, mais elle ne prétendra pas être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle est qui elle est. Chaque erreur, échec, épreuve, déception, réussite, joie et réalisation en font la femme qu'elle est aujourd'hui. Tu peux l'aimer ou pas. Elle peut aimer ou pas. Mais si elle vous aime, elle le fera de tout son cœur. Cette femme est une guerrière. Elle n'est pas parfaite. Elle a beaucoup de valeurs belles et merveilleuses. Elle est de celles qu'on n'arrête pas, gracieusement brisées, mais magnifiquement debout. Cette femme est une femme, une fille, une maman, une mère, une sœur, une amie, une vivante, une vibrante, une amoureuse, une alliée, une âme sœur, une sauvage, une exploratrice, une artiste, une malicieuse, audacieuse, ingénieuse, une femme entière et debout. Elle porte le monde en elle, le vit et l'explore. Elle incarne la vie et sur terre et l'amour inconditionnel. Elle apprend, cherche, se goûte, recommence. Elle est aimée, elle est la vie. Elle est en évolution constante. Elle est pleine de grâce. Elle est courageuse, épatante, unique, magique. Et je l'aime. Joëlle Barthelbain. Je vais demander à Madame Johanna Girard de se présenter, de nous parler de ses rôles, fonctions, missions. Après, je passerai la parole au modérateur pour continuer la manifestation.
Bonjour à tous. Donc, je suis Johanna Girard. J'ai été nommée par arrêté ministériel donc au 1er novembre auprès du préfet en qualité de directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs axes. Un axe sur la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, toute la question de lutte contre les stéréotypes de genre, la question de la santé des femmes qui est éminemment prégnante en Guadeloupe, et enfin tous les sujets d'égalité professionnelle et d'autonomie économique des femmes. Je pourrais revenir dans le cadre des échanges sur certaines des actions qu'on accompagne. Donc moi j'ai eu la chance de commencer en novembre, qui est le mois de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. J'ai eu la chance de voir l'écosystème guadeloupéen qui est extrêmement engagé sur ce sujet avec beaucoup d'actions, une dynamique très très forte. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que je crois que le sujet que vous avez posé est extrêmement puissant. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais être présente pour entendre les échanges, mais surtout comprendre les sensibilités, puisque finalement on est là pour porter une politique publique, mais il faut qu'elle réponde à une actualité, à une réalité, et qu'elle soit congrue. C'est un sujet extrêmement puissant, Mais c'est un sujet aussi extrêmement piégeux parce qu'il pose une vision assez essentialiste hein, de la femme qui doit être vertueuse, qui doit avoir beaucoup de qualités et très peu de défauts. Et lorsqu'elle présente certains défauts, qui devient démoniaque, pour reprendre certains des termes. Des politiques publiques d'égalité femmes-hommes doivent permettre d'atteindre l'égalité réelle. L'égalité réelle veut qu'en tant qu'individu, qu'une femme, qu'un homme, puisse poser les mêmes choix en ayant les mêmes moyens. On est là pour corriger les inégalités de genre. Qui ferait qu'on attribuerait à telle femme ou à tel homme des qualités, alors que ce ne sont juste que des individus qui ont des personnalités, des histoires, des trajectoires et qui se battent au quotidien.
Merci Madame Girard. Monsieur Négrit.
Bonjour à tous. La femme, apôtre de la non-violence, avec un sous-titre « Stratégie de paix et de transformation sociale ». Demander à un homme de faire une intervention sur les femmes, c'est une gageure pour moi personnellement. Une femme, c'est d'abord une mère. C'est celle qui m'a donné la vie, c'est celle que je respecte. Donc je ne vais pas développer cet aspect qui me concerne moi personnellement, mais un aspect un peu plus spécifique, la dimension stratégique de la non-violence chez la femme. Première chose, il ne s'agit pas uniquement d'une dimension biologique, mais d'une réalité historique et sociale. Donc la femme n'est pas seulement la mère, mais un être qui intervient dans le processus de fonctionnement social et un processus qui nous dépasse tous largement. Pendant, en effet, longtemps, la femme a été en marge des lieux traditionnels du pouvoir. Durant longtemps, l'histoire a mis en avant les conflits, les conquêtes, les affrontements, et bien entendu, c'était une histoire d'hommes. Et c'est là où la femme avait un rôle important d'action, quelquefois discrète, quelquefois moins discrète, des moyens de vivre et de survivre. Est-ce que la femme, son objectif n'est pas simplement de combattre avec l'homme, mais de contribuer autrement à créer? Créer d'abord en donnant la vie. Bon, ça c'est évident. Il y a aussi un autre aspect important. Elle est une médiatrice sociale. Elle a souvent ce rôle. Il y a un aspect très important à mon sens, le rôle de transmission de la culture. On demande à quelqu'un quelle est sa langue maternelle. Je ne connais pas de société où on demande la langue de son père. La femme, à travers la langue, à travers la relation avec l'autre, transmet aussi cette culture. Un aspect que je voudrais développer, la notion de non-violence. On associe souvent la femme à la non-violence. Il faut d'abord rappeler que ce n'est pas une idée qui appartient spécifiquement à la femme. Il y a aussi des hommes, bien sûr, qui ont des actions non-violence. Mais stratégie qui est utilisée souvent chez les femmes, que ce n'est pas une stratégie de faiblesse, mais c'est une méthode pour transformer un conflit, mais sans humilier l'autre, sans le détruire. La notion de non-violence renvoie quand même à une idée sous-jacente que chez l'autre, il y a quand même une dimension humaine. Ici, c'est une photo du film Gandhi. C'est un journaliste qui a vu comment les Indiens ont été frappés.
Massacrés. Belle intervention de Monsieur Négrit. Elle est très longue, donc nous ne pourrons pas tout écouter. Mais effectivement, prendre les exemples de ce qui s'est passé en Inde avec Gandhi, de regarder un peu autour de ce que les gens font aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'aider les immigrés, etc. Tout ce genre d'exemples ont bien aidé l'Assemblée à aller plus loin dans sa réflexion.
À leur donner à manger ou à boire, ce sont des actions peut-être moins journalistiques, mais qui sont tout aussi importantes. Et donc, dans ces actions-là, dans ces actions discrètes, souvent, vous avez des femmes.
Merci, Monsieur Négrit. Ça fait longtemps qu'on prie pour la non-violence et bon, on ne voit pas le bout. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce panel qui, quelque part, marginalise un peu les hommes?
Je vous avoue que j'ai été élevé par une grand-mère, une femme. Mon univers, ma culture, tout ce que j'ai, c'est cette personne-là, cette grand-mère. Ma vision du monde, elle est à partir des femmes.
Votre discours a beaucoup porté sur la culture indienne, les stratégies féminines de paix et de transformation sociale mises en place donc, par les femmes qui sont habitées donc, par la culture indienne. Est-ce qu'elles peuvent servir de modèle au monde?
Sincèrement, je ne sais pas. Dans la culture indienne, comme dans la culture non indienne, nous avons le même problème. Les femmes sont divinisées, sont mises au sommet, mais en même temps, elles sont maltraitées, battues.
En Inde, les hommes acceptent difficilement que les femmes leur refusent, on va dire, l'amour, la main. Voilà, justement, une chorégraphe qui a décidé de réparer des femmes abîmées donc, par cette violence-là. Donc je me dis, mais à la fois, vous avez présenté la culture indienne comme un élément qui peut véritablement apporter une réponse à la non-violence, mais en même temps, vous avez donc un pays où cette violence s'est quand même exacerbée.
Il y a quelques années, il y a eu en Inde un viol affreux, effroyable. La femme a été tuée, mais c'était un viol de plus. Il y en a eu beaucoup avant et il y en a eu après. Mais c'était le viol qui n'a pas été accepté. Les médias ont fait beaucoup de bruit. Les individus, bien sûr, on les a condamnés à mort. À partir de cela, il y a eu une sorte de réaction de l'Inde contre tout cela. Il y a eu aussi le mouvement MeToo qui a eu un impact fort. Depuis, les Indiennes, beaucoup moins, n'acceptent plus n'importe quoi.
Radio Sofaya Altitude,
la radio de votre cœur.
Pour ceux et celles qui prennent l'émission en cours, nous étions du côté de Sainte-Anne à cette conférence débat organisée par l'association Lien Panier à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme.
C'est une vision un petit peu idéale de la femme. Hein. La femme ne se réduit pas au fait d'être mère. Hein. Idéale dans le patriarcat. La femme telle que le patriarcat la voudrait. À l'opposé, il y a une image de la femme qui est la toute bonne ou alors la toute mauvaise, c'est-à-dire par exemple Kali, c'est-à-dire la mort. Celle qui donne la mort, qui a une puissance et qui effraie.
Quand on aborde la question de la violence, ce n'est pas juste quelque chose de gratuit, c'est quelque chose qui a une fonction aussi de transformation sociale, renforcement de l'ordre établi. En tout cas, c'est une dynamique politique qui s'exprime dans cette violence que nous questionnons aujourd'hui. Tu as dit tout à l'heure que les choses avaient changé et on a vu que justement en préparant cette intervention, cette manifestation, j'ai vu que le mouvement féministe en Inde aussi est très actif et on a vu que beaucoup, notamment j'ai un exemple, trouvé un exemple de 2006 où bien avant MeToo, les femmes s'étaient opposées aux violences sexuelles et s'étaient organisées justement en une autodéfense. Je crois que j'ai vu l'exemple du gang des Sari Roses, je ne sais pas si tu as entendu parler, effectivement, où les femmes apprenaient à utiliser une arme, le lati, le bâton, un bâton, qu'elles brandissent contre les hommes violents et contre les policiers, c'est-à-dire elles refusent de subir. Donc cette violence-là aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les choses ont un peu changé. Donc elles voient qu'elles soient actrices de transformation sociale aussi par la violence. Donc voilà. Je suppose que tu voulais peut-être nous préciser sur le mouvement, l'expression du féminisme en Inde. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus?
C'est un mouvement qui est en plein boom. Mais c'est normal que ça se développe puisqu'on est parti de tellement bas, de tellement loin. Ça ne peut que évoluer. Hein. Autrefois, quand une femme allait à la police déclarer un viol, on ne la croyait pas. Au pire, elle était violée à nouveau. Quand on parle de ça, ben forcément, on ne peut aller que vers le mieux. Hein. Bon. Il faut aussi dire que depuis une dizaine d'années, la loi, elle a beaucoup changé. Il y a des députés femmes qui ont contribué.
Radio Sofaya, 88.5, toujours plus proche de vous.
Je suis Nathalie Ninine, donc je suis psychologue et psychanalyste. Quelques petites remarques. Le patriarcat, une société fondée sur le pouvoir des hommes, définit le rôle de la femme, le réduit souvent à la maternité. Elles doivent être mères et en tant que mère, donc justement, c'est très productif. Donc elle produit des petits-enfants, elle transmet aussi les règles de la société patriarcale, etc. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, on le voit encore même au niveau des crèches, etc. Il y a beaucoup de féminins, beaucoup de femmes dans la toute petite enfance de l'enfant. Or, durant la toute petite enfance de l'enfant, il y a des choses qui se jouent d'exclusivement féminin, le côté mère, voilà, le côté maternel, un peu de déficit au niveau de l'homme, temps de présence, en temps d'investissement, etc., a des conséquences sur l'enfant. Sur les petits garçons, ça va produire une assurance, parce qu'ils sont aimés par une femme, donc aimés dans leur différence, c'est-à-dire qu'ils sont aimés non pas comme elle, mais parce qu'il est différent. Donc il a sa spécificité et le désir qu'elle aura pour lui, ce sera dans sa différence. Pour les petites filles, le fait qu'il y ait moins de présence d'hommes, de pères, etc., fera qu'elles auront moins cette sécurité, cette assurance d'être aimées dans leur différence, c'est-à-dire qu'en tant qu'elles-mêmes. Elles seront même en quête de l'amour de l'homme, par la suite bien sûr, pour combler un peu ce côté d'être désirée, d'être désirable.
Je suis dans la petite enfant et nous sommes 57. À cet âge, il n'y a qu'un homme. Et il va déposer son dossier parce qu'il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer, il ne se sent pas apte à continuer. Une maman qui vient, monsieur et madame qui travaillent ensemble, d'emblée, ils vont voir madame, pas monsieur. Alors, ils se sont rejetés, plus ou moins, pas suffisamment valorisés.
Le regard des parents, est-ce qu'il y a ce sentiment de sécurité?
Je crois
que l'image de la femme rassure plus. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour légitimer la présence masculine dans cet univers. Parce que j'ai rencontré ces situations, moi, quand j'interviens en maternelle, parce que je prends en charge les classes de maternelle, j'ai souvent une réaction de questionnement, plus ou moins. Et on est obligé de rassurer par ses gestes professionnels, par des discours. Mais en tout cas, cette présence des hommes dans les jeunes années de l'enfant est souvent une source de questions ou d'inquiétudes pour les parents. Mais en fait, je voulais, en poursuite de l'intervention, excusez-moi, demander si vous, dans votre vision, est-ce que cette organisation de l'encadrement des jeunes années, c'est-à-dire des années de socialisation vraiment, est-ce qu'elle est, selon vous, au service de la reproduction du patriarcat? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire?
Bien sûr, le patriarcat se reproduit. D'où l'importance en fait, de comprendre bien qu'est-ce qui se joue, et même au niveau des politiques publiques, etc. Enfin, on avance, on recule, mais... Le nombre d'hommes en crèche, c'est-à-dire aussi, et même le nombre de crèches qui diminue, ça devient de plus en plus compliqué, ça veut dire que les enfants, ils vont être plutôt gardés par maman, enfin voilà. Ça fait qu'il y a encore toujours cette dimension, trop de mères auprès des enfants, mais aussi pour les femmes, elles sont enquistées, elles sont vraiment bouffées dans ce rôle que la société exige d'elles.
D'accord, oui.
Donc c'est-à-dire qu'elles sont vraiment emprisonnées là-dedans. C'est le patriarcat qui fait que les femmes sont à la maison. C'est le rôle dévolu par le patriarcat aux femmes, c'est-à-dire d'être mère. Donc le patriarcat veut que les femmes soient l'instance reproductive. Et puis...
Ouais, c'est une position qui est ancestrale.
Plus qu'ancestrale. Hein,
il faut casser aujourd'hui, qu'il faut casser aujourd'hui, en fait. On ne peut pas juste constater ça, c'est un constat, c'est un fait. Mais il faut aujourd'hui sortir de cela parce qu'on en a tous conscience. Alors moi, je veux revenir sur la société patriarcale. Pardon. Tu voulais rajouter quelque chose avant?
Juste dire que Madame Perrand.
Ah oui, je vais me présenter. Donc, Madame Perrand, Diana, femme engagée. Hein, politiquement à Sainte-Anne et en Guadeloupe. Je suis également une maman. Monsieur Négritte l'a bien redit quand il a fait son exposé. Il a bien dit que les femmes ont toujours été engagées. Elles ont souvent les premières dans l'engagement, de la mobilisation, dans le militantisme pour défendre des causes. Effectivement, aujourd'hui aussi, on le constate. Dans des groupes politiques, les femmes sont toujours plus majoritaires. Dans des groupes de militants syndicaux, les femmes sont toujours majoritaires. Cependant, elles ne sont pas majoritaires dans les milieux de pouvoir. Elles ne sont pas majoritaires en tant que maire, en tant que députée. Elles ne sont pas majoritaires. Et quand vous regardez bien, lorsqu'il y a moitié d'hommes, moitié de femmes, c'est parce qu'il y a la parité obligatoire. Dès lors qu'on sort de cette parité obligatoire, croyez bien que les hommes s'accapare le pouvoir. Ça, c'est encore la société patriarcale. Parce que la femme, oui, elle milite. Oui, elle doit dire ce qu'elle a à dire. Oui, elle doit défendre. Oui, elle doit rassurer. Oui, elle doit instaurer la paix. Par contre, monsieur Négritte l'a dit, mais derrière moi quand même, derrière l'homme. Elle doit pas dépasser. Oui, elle doit rester gentille, elle doit assurer la paix. Mais derrière l'homme, toujours derrière l'homme. Et quand elle essaye de dépasser l'homme, ou même pas le dépasser, se mettre à son niveau, alors là, levée de bouclier. La société patriarcale empêche les femmes de s'épanouir, oui, parce que c'est une forme d'épanouissement aussi pour elle d'être au devant de la scène. Je me suis retrouvée confrontée à quoi ? À de la violence. À de la violence verbale, à de l'intimidation, des menaces et des dénigrements. Alors, j'avais le choix de répondre pareil par des menaces, par des dénigrements, et j'avais le choix. J'ai fait le choix de la non-violence, mais pas parce que je me suis résignée, parce que je me suis rendu compte que la non-violence était l'arme la plus puissante, en fait, et la plus intelligente. Et c'est ce que je dis toujours à ma fille. Je dis à ma fille, c'est pas la peine de répondre à la violence par la violence. Ta réussite sera ta meilleure des réponses. Organise-toi pour réussir, organise-toi pour prouver ce que tu vaux. Les femmes sont des actrices de la paix, n'est-ce pas? Apôtres de la paix et de la non-violence. Mais à quel prix, j'ai envie de dire? Alors, en 2024, c'est 14 victimes de violences conjugales pour 1000 habitants en Guadeloupe. Nous sommes le top 10 des départements français les plus touchés. 3 fois plus de violences conjugales qu'en métropole. Et l'année dernière, il y a eu 6 femmes qui ont été tuées par leur conjoint. Ce ne sont pas que des statistiques, hein. Ce sont des visages, des mères, des filles qui sont décédées. Aujourd'hui, la société, pour moi, a un rôle clé à jouer et Madame Ninine l'a rappelé. Au sein de notre association, nous avons mis en place l'année dernière des ateliers de renforcement mental. Des ateliers de développement personnel pour les jeunes de l'école primaire, CM1, CM2. On est allé jusqu'au collège et au lycée, donc les troisièmes et les premières et les terminales. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir changer les mentalités. Expliquer aux jeunes femmes, enfin, les renforcer mentalement, les faire s'aimer, les faire prendre conscience que oui, elles ont un rôle à jouer, mais surtout faire confiance aux hommes, aux jeunes hommes, que la paix, ce n'est pas qu'une question de femmes, ce n'est pas une valeur féminine, c'est une valeur humaine et humaniste avant tout. Et que, hommes comme femmes, nous avons notre rôle à jouer, notre part à faire pour que la société se porte mieux. Donc, c'est la non-violence, ce n'est pas encore une fois une affaire féminine, parce que Gandhi et Martin Luther King n'étaient pas des femmes. Et pourtant, ce sont des apôtres également de la non-violence. Donc, il faut rappeler ça sans cesse. Il faut travailler là-dessus et effectivement ne pas se résigner à ce constat. Le rôle des pouvoirs publics, c'est de ne plus faire le constat, mais de passer à l'action pour faire évoluer les mentalités, et ce, dès la petite enfance.
Madame Ninine, vous nous avez donné une porte d'entrée pour comprendre ce qui construit la violence, une société patriarcale qu'il faudrait déconstruire. Vous, Madame Perrin, vous avez soulevé un problème capital. Et c'est bien qu'on puisse le dire aussi aujourd'hui, parce que dans la commune où moi je vote, j'attendais une femme en tête parmi les nouveaux candidats et elle a pris l'homme, elle l'a mis devant. C'est subtil, mais ça dit quelque chose de fondamental au sein de notre société. Et
la femme, apôtre de la paix, mais elle doit aujourd'hui être plus qu'apôtre de la paix en arrière, mais apôtre de la paix au devant de la scène.
Est-ce que vous, en tant que psychologue, en tant que psychanalyste, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de la violence? Et est-ce que les sociétés non violentes, est-ce que ça existe?
En termes de définition de la violence, il y a plusieurs approches. Une conception de la violence que j'aime bien, qui est un peu moins négative que celle qu'on voit. Une violence qui peut être constructive, c'est-à-dire une violence, c'est aussi le fait d'arrêter, de mettre des limites à l'autre. C'est-à-dire où il faut une énergie, mais une énergie qui dit stop. Qui n'est pas de l'agressivité. L'agressivité, c'est dans le plaisir de faire mal à l'autre, de rabaisser, d'humilier. Enfin, l'agressivité est toujours en rapport avec la domination. Quel que soit le type de domination, hein. On parle de la domination sexiste, et notamment avec cet exemple où il y a trop de mères auprès de l'enfant et pas assez de pères, avec toutes les conséquences que ça engendre, mais on a aussi de la domination économique, la domination des plus riches sur les plus pauvres, et puis la domination aussi raciste, raciale. Nous, on est au creuset de ça, c'est-à-dire historiquement, on a eu tout ça, d'agressivité, de gestion de la frustration, enfin bon.
Vous expliquez quelque chose de fondamental. Pour moi, c'est au départ contre-intuitif de dire que la femme, si on parle du postulat, qu'elle symbolise, qu'elle incarne la bienveillance, la douceur et tout, et que le fait que les enfants, surtout les garçons, soit majoritairement, le plus souvent, le plus longtemps encadré par des femmes, ça devrait être normalement une culture de la non-violence qui est infusée. Or, vous nous dites que ça produit le contraire. Et c'est ça qui est contre-intuitif, en fait. Et deuxième chose, pour revenir à ce que vous dites, c'est la différence que j'ai trouvée entre violence féminine, puisque c'est ça qu'on discute aujourd'hui, et violence masculine. On nous dit quand on parle de violence des femmes ou de violence féministe, il ne faut pas penser que c'est une violence égale à la violence patriarcale. Donc il y a une différence de légitimité entre ces deux-là. La violence patriarcale assoit une domination, en cela elle est oppressive, alors que la violence féminine, féministe est une forme d'autodéfense, une violence pour se sortir de l'oppression. La violence féministe n'est pas oppressive, elle est subversive.
Pas forcément.
Non, ouais. Je suis le messager, c'est pas moi qui ai écrit le message, en fait. Je porte le message. Et c'est vrai qu'il faut discuter des choses et pour sortir vraiment des représentations qui sont basées sur un conformisme. Quand on dit que la violence, il y a une différence, il y a beaucoup d'exemples historiques où justement les femmes sont jugées plus sévèrement quand elles sont autrices de violence parce que justement on ne leur accorde pas ce recours à la violence et elles sont beaucoup plus sanctionnées par la justice, même si dans des cas extrêmes il peut y avoir une réaction de l'opinion publique. On a vu le cas de Madame Sauvage qui a bénéficié d'une forte mobilisation parce qu'elle avait à la fin, après des années, des décennies de violence, elle avait tué son mari. Donc en fait, elle avait été condamnée assez sévèrement, parce que souvent, les hommes qui commettent des féminicides ne sont pas autant punis. Malgré tout, il y a eu un sursaut, une réaction de l'opinion publique pour dénoncer une injustice. Donc c'est vrai que c'est pas mettre les violences ou justifier une, mais quand même poser sur la table la question de la violence politique et des femmes et le rôle de la violence dans la transformation sociale.
Voilà. Alors j'entends bien, mais les femmes sont différentes. Chaque femme est différente, chaque homme est différent, chaque être est différent. Par rapport à la domination, alors on parle du sexisme, mais on peut l'étendre aussi au racisme ou à la domination économique, etc. Par rapport à la domination, on peut lutter contre et se mettre du côté de l'opprimé ou alors adhérer à la domination, c'est-à-dire adhérer à l'oppression, même si on a été victime. Par exemple, on voit même au niveau de l'aliénation raciale, par exemple, où on voit alors que par exemple, du racisme, par exemple, chez les personnes noires, par exemple, ou du sexisme chez les femmes, ou etc. Enfin bon,
la non-violence n'est pas valorisée comme une force, en fait. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a des dérives dans la société? On parle des femmes aujourd'hui qui ont un comportement d'homme, qui elles-mêmes réagissent par la force. Est-ce que c'est pas ça qui cause la dérive, justement? Parce qu'on n'a pas, la société n'a jamais valorisé la non-violence comme une forme de puissance. On a encore des exemples dans l'actualité, des mères qui se rendent devant des collèges et qui, avec leur voiture, essayent de foncer sur d'autres collégiens. Ou bien qui se mettent à insulter ou à frapper d'autres parents, d'autres mamans devant leurs enfants. Donc elles versent vers la violence, alors que c'est pas a priori leur nature profonde. Est-ce que les femmes ne deviendraient pas comme des hommes parce qu'elles ont tellement été opprimées, méprisées, rabaissées et que la société, encore une fois, ne valorise pas la non-violence? Et donc elles sont obligées aujourd'hui d'adopter les codes des hommes et les armes des hommes pour se défendre.
Elles ne sont pas obligées, mais la tentation est forte puisque apparemment c'est dans cette société qui fonctionne sur la domination. Quels que soient les types de domination, en fait, finalement, on a l'impression que c'est les plus méchants qui profitent.
Je pense qu'il y a un sujet à poser, c'est un sujet de sémantique qui n'a pas été abordé dans le débat, et je ne voudrais pas qu'on oppose des concepts qui ne sont pas opposables parce qu'ils ne renvoient pas aux mêmes idées, ni aux mêmes mouvements, ni aux mêmes réalités. Masculinisme et féminisme ne sont absolument pas opposés. Le masculinisme, aujourd'hui, c'est un danger qui a été reconnu par le ministre de l'Intérieur, donc c'est un risque majeur pour la société qui ne s'oppose pas du tout au féminisme. Le féminisme, si on retourne sur la logique et on va dire la sémantique initiale, c'est mettre en place toutes les mesures qui permettent l'égalité femmes-hommes. C'est juste ça, en fait. Dire qu'on est féministe, ce n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose d'extrême. Après, ça a été pour la mettre en place un ensemble de mouvements civiques, politiques, qui ont conduit à certaines situations. Mais le féminisme, initialement, c'est un terme qui dit « Moi, ce que je veux en tant que féministe, c'est de l'égalité femmes-hommes. » C'est tout. Le masculinisme, ce sont certains hommes qui, grâce à des fonds, parce qu'on est sur un système capitaliste, c'est un mouvement qui est entretenu par des personnes, on ne va pas les nommer, mais on les connaît, plutôt nord-américaines, qui entretiennent la visibilité de personnes sur des réseaux, puisque leur terrain de jeu, ce sont les réseaux sociaux, pour diffuser des idées, qui commencent d'abord par « pour être masculin, il faut être comme ça ». Donc, ils interrogent la masculinité avant de rentrer dans du fanatisme. Ils incitent les hommes à se positionner comme plus masculins, ou en tout cas à renvoyer une image de la masculinité. Et après, en faisant rentrer surtout les jeunes hommes dans ces réseaux, il leur explique, ok, mais en fait, maintenant que tu es masculin, faut que tu domines, faut que tu fasses ci, faut que tu sois agressif, etc. Féminisme, masculinisme, ça peut pas s'opposer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système organisé d'emprise psychologique sur un ensemble de personnes qui arrivent à des dérives de violence. Le patriarcat, c'est une forme sociale qui vise à mettre à l'honneur les hommes. La décision est masculine, l'homme domine, les choses s'orientent et s'organisent autour de l'homme. Le matriarcat, c'est le même système organisé autour de la femme.
Pour rester sur le masculinisme, et ce que vous dites là est hyper logique, parce que l'objectif, c'est de les faire rentrer dans une orientation politique. Donc cette vision masculiniste est axée aussi, articulée avec une pensée politique, et qui vise à une transformation sociale aussi. Donc ça, c'est aussi important. Ce que je voulais dire sur la violence, c'est que cette citation-là, elle arrive après avoir étudié les engagements, l'expression de la violence comme moyen politique de la part des féministes. Donc effectivement.
Induire qu'il y a une violence patriarcale qui a instauré le patriarcat revient à dire qu'il a dû s'imposer, alors que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos sociétés, qu'il n'y a pas eu de violence patriarcale. Aujourd'hui, la violence qu'on constate, c'est pour le maintenir.
Voilà, c'est ça, exactement.
Donc,
ce qu'on
là dit. Encore, il y a encore un sujet exactement. Sur l'histoire, le déroulement. La violence féministe ne vient pas en opposition d'une violence patriarcale. C'est parce qu'il y a ces revendications, ou en tout cas cette prise de conscience, et en tout cas cette envie d'égalité des femmes, pas forcément de domination de la femme
absolument.
Par l'homme,
absolument.
Que les hommes deviennent violents et qui mettent en place des stratégies autrement plus agressive et défensive.
Le masculinisme n'a rien à voir avec le féminisme. Le masculinisme, il s'agit de garder l'homme dans son pouvoir. Les masculinistes, ce sont des hommes qui se sentent castrés et qui veulent reprendre le pouvoir. Et le féminisme, c'est effectivement l'égalité des droits et pas l'égalité. Parce que si on se fait mouquer dessus, une femme ne sera jamais un homme, etc. etc. On n'a jamais dit qu'on voulait être des hommes. On veut être égal en droit et donc lutter pour les droits des femmes.
Concernant le poteau mitant, effectivement, le poteau mitant, c'est un problème qui est lié justement au patriarcat, du fait qu'il n'y ait pas assez de pères à la base au niveau des enfants, et c'est lié à l'histoire esclavagiste, hein, c'est-à-dire où le père a été éjecté. Et il ne restait plus que la mère et l'enfant comme embryon de famille.
Quand on parlait de masculinisme, je ne veux pas faire un débat là-dessus, mais il faut aussi différencier, si on doit aller plus loin, entre le mouvement justement masculiniste et ceux qui incellent, c'est-à-dire célibataires involontaires. Ils arrivent à être contre les femmes parce qu'ils disent qu'ils subissent justement un célibat. Ils n'arrivent pas à trouver une compagne, donc ils arrivent à être très agressifs envers les femmes parce qu'ils grandissent comme ça, ils ont l'impression d'être rejetés, justement parce qu'il y a eu des mouvements féministes et tout. Donc en fait, on a des jeunes hommes aujourd'hui qui grandissent dans le rejet des femmes parce qu'ils disent subir un célibat involontaire.
Mais ça a à voir toujours avec la frustration.
Absolument.
Avec la frustration du petit garçon qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas à grandir et qui n'arrive pas à accepter la frustration, qui n'arrive pas à sortir de son égocentrisme. Parce que l'amour, c'est au contraire sortir de sa petite personne pour aller en relation avec l'autre. Et or, si on est encore dans son infantilisme, enfin, son égocentrisme infantile, enfin, ça, tout tourner autour de soi, il n'y a pas de relation possible.
S'il y a une ou deux questions de la salle.
Oui. Personnellement, je pense que certaines femmes doivent développer la violence légitime. Quand il le faut, si un gars te fout un choc, qu'a fouté un choc en retour.
Merci pour cette synthèse. À vous.
Oui, parce qu'il y a eu, bon, dans les propos, il y a eu pas mal la violence des hommes, la violence. Non, mais c'est peut-être dans l'histoire, parce que d'après ce que l'histoire dit, hein, les Vikings, tout ça, c'était surtout des hommes qui parlaient en guerre. Donc le fait de dire oui, on est en guerre contre les hommes ou les femmes, peut-être qu'on continue à alimenter ça. Arrêter avec ce discours, entre guillemets, nauséabond, et puis décider que c'est l'égalité, point à la ligne.
L'égalité ne se décide pas.
C'est une décision politique, hein, ça se décide. Parce que quand ils veulent décider pour X ou Y, ils arrivent. Donc c'est une décision politique et c'est implanté. C'est pas normal que, par exemple...
Absolument.
C'est pas normal que, par exemple, parler des élus, je sais pas trop quoi, du conseil, que ça s'applique pas là et ça s'applique là. Non, ça s'applique point fini.
Définir vraiment qu'est-ce que c'est le féminisme pour que les hommes ne pensent pas que ce soit un combat contre eux. Au contraire, nous voulons associer les hommes au combat.
Je pense qu'on est nombreux, peut-être si on remonte un petit peu dans l'histoire, parce que nous les femmes, on est encore au fond du trou. Si nous commençons par la religion, la création de la femme, ensuite, aussi loin que l'on remonte, il y a une espèce d'institutionnalisation de la place de la femme. Elle est toujours au niveau, alors la création, le Moyen-Âge, le rôle des femmes, etc., les hommes à la guerre, les hommes capitalistes, la femme élève les enfants, elle est dans son corset en Occident, et l'homme avait le choix des femmes. Maintenant, le problème des petits jeunes, c'est que les femmes veulent choisir aussi. Donc, ce qui est logique, ce qui fait que les jeunes hommes qui ne trouvent pas de femmes trouvent ça injuste, et c'est parce que les femmes veulent exister dans cette société qu'ils n'en trouvent pas de copines. Alors que nous, les femmes, nous sommes célibataires, ça ne pose pas de problème. Hein.
C'est très compliqué parce qu'il y a aussi...
Il y a le
côté des écrans aussi qui font que les gens, que les jeunes peut-être, ou les jeunes, se replient. Donc ça oui. accentue l'égocentrisme, etc.
Mais il est vrai aussi qu'il y a encore ce long, long, très, très long passé...
Oui.
Contre lequel
oui.
nous devons.
Oui.
C'est pourquoi c'est si difficile d'abord, oui, parce que c'est pas simple.
Voilà,
c'est pas simple.
C'est compliqué.
C'est très compliqué. C'est très compliqué entre l'histoire, la géographie, les machines, etc. Mm. On a du boulot.
Mais au final, c'est la société qu'on détruit, c'est la paix qu'on détruit. Donc il faut de la justice pour la paix.
La dernière intervention, on ne pouvait pas trouver mieux que la réalisatrice du documentaire S'affirmer femme.
Bonjour à tous. Je suis Armelle Vertineau, cinéaste documentariste. Je vous ai écouté religieusement. J'ai apprécié ce que tout le monde a dit parce qu'en fait, chaque personne a trouvé sa part. C'était bien vu, mal vu, à peu près discutable. Parce qu'en fait, je suis une intervenante régulière. Je suis femme d'insertion, femme de formation, femme d'accompagnement des femmes et femme qui propose des outils pour pouvoir réaliser ce que nous sommes en train de dire de façon théorique. Il est un petit peu temps de dépasser un peu la théorie. Il nous faut aller vers la réussite, vers les outils, vers l'accompagnement, vers la formation des femmes qui doivent normalement s'orienter et aller vers et réussir ce que nous disons. Tout ce que nous disons, c'est bon, j'ai écouté tout le monde, mais allons vers, allons faire. Je n'ai pas entendu ce côté-là, moi je le cherche. Il nous faut des outils, il nous faut des moyens, il nous faut aller vers les femmes, faire avec les femmes, les former, les accompagner, leur donner les éléments qu'il faut pour pouvoir réussir.
Nous avons donc échangé avec des personnes de compétences différentes, ce qui nous a permis donc d'aborder cette idée de... Plutôt, on a plutôt abordé la violence que la non-violence, cette idée de violence sous des angles différents. Ce qui nous a enrichi, on a besoin de théorie. Madame Vertineau a proposé quelque chose de... c'est pas théorique, c'est pas pratique non plus. On fait une action véritable. Madame Perrand nous a aussi proposé quelque chose. Mais je dis qu'on a... vraiment besoin de parler, on a vraiment besoin de s'entendre et on a vraiment besoin d'écouter et parfois peut-être que nous n'écoutons pas assez les acteurs de violence, d'accord, peut-être, hein? Acteurs de violence, et c'est la raison pour laquelle, en résonance donc avec le sujet que nous allions aborder aujourd'hui, j'ai entendu une chanson et le texte m'a interpellée. Donc je me suis dit que je voulais lire simplement ce texte-là et peut-être nous pousser à réfléchir aux stratégies à mettre en place pour véritablement contenir cette violence, mais en prenant en compte aussi le propos des acteurs.
C'est très important ce que vous avez dit, c'est-à-dire il faut écouter les personnes violentes. Effectivement, le fait d'écouter, de permettre de verbaliser, cliniquement, en fait, ça fait qu'il y a moins de passages à l'acte.
Alors voilà, si nous grandissons dans ça, à pas faute en nous. Si nous mettons nous qu'a fait cas, à pas faute en nous. si nous grandis l'orisis, à pas faute en nous. La vie là rend nous comme ça, à pas faute en nous. Là nous grandis violent, nous paie pas passif. Alentour en moins, il y a qui assassin, il y a qui trafiquant. Et tout ça nous j'avive et ça pour confine. Nous pito à six chiffres. En bison gros cas, en bison prend le lard, en veut voyager, en con lion en cage, moins enragé. En ni cicatrice, cœur moins balafri. Faut moins gérer la crise, mettre cœur là à l'abri. En j'avoue débité, on peut pas même imaginer. Yo peut pas aimer nous, nous qu'a déranger. Nous pas t'inviter, mais nous manger quand même.
Plus de 2h30, c'est le temps qu'a duré cette conférence débat. Les intervenants ont fait le job, le public a participé, cela a été interactif. Nous avons appris beaucoup de choses, mais nous ne pouvons effectivement, malheureusement, pas tout retransmettre.
On fait combien dérapages, on j'appelle combien fil, on j'appelle fil en moins. Signé Drexy 2026.
Merci, super. Pour finir, je dirais merci à Liane Pannier pour sa confiance et avec Marie-Léna pour cette modération à deux voix. On a pris une seule voix, celle de la complémentarité, je pense. On a suivi un seul chemin.
Avec Madame
Joanna Girard, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes à la préfecture de région Guadeloupe.
Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette matinée, de ce beau débat qui a eu lieu ?
Alors, je pense que ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est qu'on réalise qu'il faut discuter. Anti-causer, c'est important. Il faut pouvoir poser des mots sur des concepts pour pouvoir aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a pu faire ensemble et se dire, ok, collectivement, comment on va avancer avec ces questions de féminisme parfois mal compris, de masculinisme sous-estimé, de patriarcat non maîtrisé, et qu'est-ce qu'on va faire pour être mieux ensemble, pour avoir une société plus apaisée. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir de ce matin.
Est-ce qu'il faut continuer ce genre de conférence-débat ?
Alors, je pense qu'il faut continuer. Bien évidemment, on a échangé aussi sur des axes d'amélioration. C'est ce que j'ai apprécié. Hein. On est dans une amélioration continue. Avoir peut-être plus de temps de poser les concepts, d'échanger sur la base de support pour que tout le monde parte du même niveau de connaissance. Mais évidemment, il faut continuer. Et continuer même plus régulièrement qu'une fois par an, je pense.
Une conférence-débat formidable.
Conférence-débat très, très constructive et intéressante. On a eu du beau monde. Monsieur Négrit, Madame Perrin, je pense que c'est un débat qui devrait être renouvelé régulièrement.
Ne pas s'arrêter en si bon chemin.
Ne pas s'arrêter en si bon chemin comme vous venez de le dire, parce que nous avons tendance à stagner. Et quand les paroles sont belles, et quand les paroles sont valables, nous devrions continuer et continuer le combat sans s'arrêter pour que la Guadeloupe puisse s'éveiller parce que nous en avons besoin.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire et il faut que les actes suivent la parole pour que nous puissions cultiver de l'amour et donner de l'amour sans rien attendre au retour.
Avec la présidente de l'association Liane Pannier, Camille Mugerin, encore une fois, mission accomplie.
Oui, mission accomplie et voilà, hein, nous avons honoré les femmes en décalé, c'est-à-dire 25 avril, alors que voilà, mais pour des raisons, vous avez tous compris, les élections en mars nous ont empêchés de faire cette manifestation. Et voilà, donc nous avons eu des interventions de grande qualité avec un public aussi très participatif qui a posé des questions intéressantes. Donc quand on a des intervenants de qualité, un public de qualité, ça ne peut donner qu'un débat de qualité.
La mission continue parce que Liane Pannier ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
Ah non, nous continuons. Le thème de l'année prochaine, nous ne connaissons pas encore. Mais ça va continuer parce que nous avons des activités toute l'année. Nous avons des conférences, nous avons des sorties. Nous allons faire bientôt une conférence sur souveraineté alimentaire et chlordécone. Puisqu'on nous dit que nous devons produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons, mais sur une terre chlordéconée, comment faire? Voilà, donc ce débat-là, nous allons l'ouvrir au mois de juin avec le programme JAFA. Et nous avons d'autres programmes encore, d'autres activités.
Pour continuer tout ce travail que vous faites à Liane Pannier, vous n'êtes jamais fatigué, ça fait plaisir.
Et même quand on est fatigué, on continue quand même, on se repose et on continue quand même. Parce qu'une association pour vivre, pour exister, exister doit proposer, doit être toujours en activité. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la mesure de notre possibilité.
En tout cas, bravo pour ce que vous faites à Lien Panier. Madame Camille Mugerin, félicitations et longue vie à votre association. Merci pour tout.
Et merci à Dominique Mugerin pour son soutien indéfectible. Il est avec nous chaque année. Je lui dis, c'est lui la mémoire de notre association.
Merci. Alors, c'est avec les mots de la présidente que nous allons nous quitter aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une toute notre émission. Kimberet Pamoli, force.
Retrouvez chaque samedi 10h sur Radio Sofaya Altitude l'émission Justice et Paix, animée par Domi.
École, catéchisme à Sainte-Rosemène.
Oui, nous étions au catéchisme au bout le mardi.
Une émission en partenariat avec Radio Bain-Sabiel. Justice et Paix donne la parole au monde associatif, politique, social, sportif, culturel.
Je crois qu'il faut quand même que on puisse remettre l'agriculture aux mains des enfants.
Le sport est un vecteur de relations sociales.
Justice et paix, les problématiques sociétales avec une vision chrétienne.
Mais aussi marcher vers Dieu, marcher vers un idéal, marcher vers un but.